www.libradio.org. La radio qui vient à ta rencontre.
Alors nous sommes ici à la plaine de Plainpalais le 19 septembre 2019 et à l'occasion, en fait ce sont les derniers jours puisque on vient de le dire, hein, Baptiste, bonjour à toi, merci de nous recevoir ici sous la tente, enfin à proximité de la tente. Cette tente contient une exposition qui s'appelle « À la recherche d'une sœur de la Terre ».
Exactement.
Qui a cours donc jusqu'à demain et il y aura également le 26 septembre plein de petites animations alentour à l'occasion de La nuit est belle.
La nuit est belle. Voilà, on va pouvoir voir la Voie lactée depuis Genève parce qu'on va éteindre toutes les lumières.
Et ça, c'est vraiment splendide. On se réjouit de ce moment-là. Baptiste, alors, présente-toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et puis ensuite, on parlera évidemment de la BD. Et ensuite, je te demanderai de nous présenter évidemment Salomé.
Ouais. Donc moi je suis astrophysicien au département d'astronomie de l'université de Genève et je travaille sur les exoplanètes, des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil.
D'accord. Ouais. Et alors ce projet de BD est né avec un personnage, avec plusieurs personnages, dont Salomé. Alors qui est Salomé?
Alors Salomé c'est une petite fille d'une dizaine d'années qui vit en 2075, donc dans très longtemps. Elle reçoit une bande dessinée, bizarrement, sur du papier écrit. En 2075, apparemment, il n'y avait pas trop de papier. Mmh. Enfin, il n'y aura pas trop de papier. Et dans cette BD, il y a une histoire, l'histoire de six personnages qui ont à peu près le son âge, qui visitent l'Observatoire de Genève en 2019. Donc là, cette année. Et à travers cette petite histoire, ces petits personnages qui visitent l'Observatoire, il y a un petit événement qui arrive, quelque chose d'assez catastrophique pour un des professeurs de l'Observatoire. Il perd ses données. Les enfants sont un petit peu responsables de cette perte des données et ils décident donc de mener l'enquête. Qu'est-ce qu'il y avait sur cet ordinateur qui a fait s'évanouir le professeur Bernet? Il s'appelle Bernet le professeur. Et à travers cette petite enquête, les enfants vont devoir apprendre plein de choses. Qu'est-ce qu'une étoile? Qu'est-ce qu'une planète? Qu'est-ce qu'une exoplanète? Quel type d'exoplanète il y a là-haut? Et voilà.
Et voilà. Alors, tu l'as dit, une exoplanète, qu'est-ce qu'on appelle, que signifie exoplanète pour de vrai?
Alors, déjà, on va peut-être partir sur qu'est-ce qu'une planète.
Allons-y.
Donc, nous habitons sur la Terre. C'est une planète, on tourne autour du Soleil. Le Soleil, c'est notre étoile. Notre système solaire, c'est donc le système de planètes qui tourne autour du Soleil. On a 8 planètes aujourd'hui. Je vais les faire.
Oui.
Parce que je pense que c'est important.
Oui, oui.
En partant de la plus proche du Soleil jusqu'à la plus loin, on a donc Mercure, Vénus, la Terre, c'est nous, la troisième planète. Planètes en partant du Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ça, ce sont donc les planètes du système solaire. Il y a plein d'autres objets qui tournent autour du Soleil, notamment les planètes naines, dont Pluton. Les plus vieux d'entre nous se rappellent que lorsqu'ils étaient jeunes, Pluton était la 9e planète du système solaire. Mais depuis 2006, après un vote à main levée à l'IAU, nous avons décidé que Pluton n'était plus une planète, mais une planète naine. La pauvre, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, du coup, les planètes, ce sont donc ces objets sphériques qui tournent autour d'une étoile. Dans notre cas, le Soleil. Et autour des étoiles qu'on voit dans le ciel, il y a aussi des planètes qui tournent autour. Et on les appelle donc des exoplanètes. Exo dans le sens, elles n'appartiennent pas à notre système solaire. Elles sont dehors.
Mais elles sont tout de même dans la Voie lactée.
Mais elles sont tout de même dans la Voie lactée, exactement. Donc la Voie lactée, c'est donc un regroupement d'étoiles qui forme une galaxie, notre galaxie, qu'on appelle la Voie lactée. Et donc toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel appartiennent à notre galaxie, la Voie lactée.
Alors, la recherche des exoplanètes se confine-t-elle à notre galaxie ou est-ce qu'on va aller, on va explorer encore plus loin?
Alors, malheureusement, l'univers est très très grand. Les distances sont juste phénoménales. Et donc, les exoplanètes qu'on a découvertes sont uniquement dans notre proche voisinage. C'est-à-dire, non seulement elles sont dans la Voie lactée, mais en plus, elles sont très 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 proches de nous. C'est-à-dire c'est vraiment notre voisinage proche. Si je donne des ordres de grandeur, pour traverser la Voie lactée, c'est 100 000 années-lumière. C'est-à-dire une année-lumière, à la vitesse de la lumière, il faut 100 000 années pour traverser cette galaxie. Les planètes qu'on a trouvées autour de nous, c'est de l'ordre de entre 1 000 et 2 000 années-lumière maximum où on va. Alors, il y a quelques exemples avec notamment les lentilles gravitationnelles, qui est une technique de détection qui utilise la relativité générale d'Einstein pour voir beaucoup plus loin. Avec un effet de lentille, comme son nom l'indique, hein, on arrive à détecter des exoplanètes beaucoup, beaucoup plus loin. Mais ça se compte sur les doigts de la main. Peut-être les deux doigts de la main. Donc du coup, les exoplanètes qu'on a découvertes, c'est dans notre Voie lactée, c'est dans notre voisinage très, très proche. Et donc, on ne parle même pas d'exoplanètes dans d'autres galaxies. C'est-à-dire qu'on peut juste pas les détecter, en fait. C'est vraiment très très dur de détecter une exoplanète, parce que c'est tout 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 petit, et les distances sont vraiment très 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 grandes.
Alors, on le sait, on a ici à Genève le privilège de compter deux parmi, enfin même les deux initiateurs de, cette, de ces nouvelles rencontres avec ces exoplanètes, hein, Didier Queloz et Michel Maillard.
Exactement.
Qui depuis l'Observatoire de Genève, ou en tout cas qui appartiennent à l'Observatoire de Genève, ont découvert en 1995 les premières exoplanètes.
Exactement, donc la première exoplanète en 1995, alors c'était pas, donc Didier Queloz et Michel Maillard sont effectivement, étaient effectivement deux chercheurs du département d'astronomie de l'Université de Genève, donc l'Observatoire de Genève. Mais ils ont détecté ces exoplanètes en utilisant des instruments qui se trouvent à l'OHP, l'Observatoire de Haute-Provence, dans le sud de la France. Et donc effectivement, en 1995, la première exoplanète, et là je dois quand même dire quelque chose, autour d'une étoile vivante, entre guillemets, c'est-à-dire pas une étoile morte, puisqu'en fait en 1992, on a aussi découvert des exoplanètes, mais autour d'étoiles mortes, et donc très peu intéressantes. Donc vraiment le début de la recherche des exoplanètes a effectivement été initié par Michel et Didier en 1995. Ça a créé en fait tout un nouveau domaine de recherche qui n'existait pas du tout avant. Et la communauté de recherche en exoplanètes, qui était toute petite au début, quelques dizaines, vingtaines de personnes qui travaillaient là-dessus, aujourd'hui, en 2019, on est plusieurs milliers. Donc, et on continue à grossir. Donc c'est vraiment un domaine de recherche très très actif. Et j'ai même envie de dire que les résultats qu'on obtient, c'est pratiquement tous les jours, on a quelque chose de nouveau. Donc on a vraiment beaucoup, beaucoup de papiers. C'est très dur d'ailleurs de suivre tout ce qui se fait dans le monde. Mais la recherche avance très, 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 très vite. Et la connaissance qu'on a de ces exoplanètes est vraiment exponentielle. D'autant plus que nous avons donc de nouveaux instruments qui sont en train d'arriver on sky, comme on dit. Donc ils commencent à observer. Notamment le télescope KEOPS. Peut-être que l'on parle, j'anticipe ta question.
Mais c'est ça. Alors j'allais te demander de quelle manière est-ce qu'on détecte ces exoplanètes. On a cette partie, parce qu'il y a KEOPS, et puis il y a les télescopes. Et j'aurais souhaité te questionner aussi sur qu'est-ce qu'un télescope, qu'est-ce qu'un radiotélescope, en quelques mots.
Ouais. Alors, radiotélescope, télescope, c'est un petit peu la même chose. C'est simplement dans quelle longueur d'onde on parle. Donc, une longueur d'onde, c'est simplement les différentes couleurs de la lumière. D'accord ? Donc nous, on voit les... dans le visible, d'accord, ce qu'on voit avec nos yeux, ce sont ce qu'on appelle les longueurs d'onde visibles, ok, du bleu au rouge. Et si on va dans des longueurs d'onde beaucoup, beaucoup plus longues, on appelle ça les ondes radio. Donc les ondes radio, quand on passe à la radio, c'est exactement ça. Et donc un radiotélescope, ça permet d'observer ces ondes radio. Donc tous les objets autour de nous, dans les astres, émettent des ondes radio aussi. Et donc on peut les observer avec ces radiotélescopes. Après, avec un télescope, quand on dit un télescope, on fait plutôt référence à un télescope qui voit dans le visible. Donc avec un miroir qui va réfléchir à la lumière que nous, on voit avec nos yeux et qui va la concentrer sur un détecteur, par exemple une caméra pour faire une jolie photo ou sur un spectrographe pour justement disperser la lumière et voir ces différentes couleurs.
Et là, voilà. Est-ce la taille qui compte
Non, ce n'est pas la taille qui compte. Alors, tout dépend ce qu'on veut faire. La taille est bien sûr importante. Plus on va avoir une taille de télescope grande, plus on va réussir à collecter de lumière et donc plus on va réussir à avoir des détails fins sur les objets qu'on regarde. Donc effectivement, pour revenir un petit peu sur les exoplanètes, si on veut réussir à caractériser ces exoplanètes, c'est-à-dire dire qu'est-ce qui les compose, qu'est-ce qu'il y a dessus, on va avoir intérêt à avoir des gros télescopes. Donc après, si on veut juste détecter les exoplanètes, finalement, un petit télescope peut permettre de le faire. Et donc là, je vais peut-être enchaîner sur la façon dont on détecte les exoplanètes. Je vais partir pas sur la première méthode qui a été utilisée par Michel et Didier, mais plutôt sur la deuxième méthode, la méthode dite des transits. Comme une éclipse, lorsque la Lune passe devant le Soleil, la Lune va cacher la lumière du Soleil. Maintenant, les exoplanètes, si on a de la chance, elles peuvent passer exactement entre nous et l'étoile. Et donc, en passant devant l'étoile, elles vont faire baisser la luminosité de l'étoile. C'est ce qu'on appelle la méthode des transits. Et ça, finalement, avec un petit télescope, je pense que même les astronomes amateurs peuvent réussir à le faire, il y en a qui le font. Bon, il faut quand même avoir un petit peu de matériel. Mais si on enregistre donc, le flux lumineux qui vient des étoiles, et si on a de la chance qu'une planète transite devant, avec du matériel amateur, on arrive à voir une baisse de luminosité qui va se répéter de manière périodique. Par exemple, tous les 3 jours, si on a une planète qui est très très proche de son étoile et qui tourne autour de son étoile en 3 jours. Et donc tous les 3 jours, on va voir une baisse de luminosité due au passage de cette planète.
Une baisse qui peut être infime.
Alors,
selon la distance et l'albédo des planètes.
Alors l'albédo, non, pas tant que ça. C'est plutôt la taille là, qui compte pour le transit des planètes. Donc pour une planète de la grandeur de Jupiter, ça va, ce qui passe devant donc, une étoile de type solaire, aussi grosse que le Soleil, ça va être de l'ordre de 1%. C'est-à-dire que si on mesure 100, au moment où la planète passe, on va mesurer 99.
D'accord.
Et donc ça, on arrive voilà, à le faire avec ces méthodes. Donc ça, c'est la méthode des transits. Et donc là, je parle un petit peu peut-être de la première méthode qu'on a utilisée, qui est un peu plus compliquée à visualiser, puisque la méthode des transits, c'est simple. C'est simplement un objet qui passe devant une étoile et puis ça baisse la lumière. C'est assez simple. Pour la méthode des vitesses radiales, donc la première méthode utilisée par Michel et Didier en 1995, là, la planète ne transite pas devant, donc on ne voit pas cette baisse de luminosité. Par contre, on voit que l'étoile bouge à cause de la présence de cette exoplanète. On dit souvent que la Terre tourne autour du Soleil. Bah, c'est faux. En fait, la Terre et le Soleil tournent autour du centre de gravité du système Terre-Soleil. Dans le cadre de la Terre, le centre de gravité est dans le centre du Soleil. Donc, finalement, quand on dit que la Terre tourne autour du Soleil, c'est
ça
pas correspond, si faux que ça.
Ça coïncide.
Ça coïncide. D'accord. Par contre, pour une planète de la taille de Jupiter, par exemple, c'est faux. Le centre de gravité est à l'extérieur. Et donc, l'étoile, le Soleil, en l'occurrence, par rapport à Jupiter, va avoir un mouvement. Il va tourner sur lui-même, faire un cercle comme la planète, et c'est ce mouvement-là qu'on arrive à détecter. Et en mesurant ce mouvement, on arrive à dire ah, là il y a une planète qui tourne autour de cette étoile. C'est la méthode des vitesses radiales, donc la deuxième méthode, enfin la première historiquement.
Oui.
Et maintenant en termes de nombre, c'est plutôt les transits qui sont en train de passer devant.
D'accord.
On connaît plus de 4000 exoplanètes et je pense que là à peu près entre 2000 pour chaque méthode, vitesse radiale et transit. Et ensuite, il y a aussi d'autres petites méthodes qui permettent quelques détections, mais beaucoup moindres, qui est l'imagerie directe. Ça, c'est pour moi la plus belle, puisqu'en fait, on prend une photo de l'exoplanète. C'est-à-dire que là, on a vraiment comme... Alors, il ne faut pas imaginer une photo comme les photos des planètes du système solaire. C'est juste un point lumineux. Mais en tout cas, on détecte les photons de lumière, la lumière qui vient de la planète. Ça, c'est l'imagerie directe. On en connaît maintenant plus d'une vingtaine qui ont été découvertes comme ça. Et puis ensuite il y a d'autres méthodes, l'astrométrie par exemple, où là on va mesurer la position des étoiles et on va voir que cette position elle bouge, elle va faire un cercle exactement comme pour les méthodes des vitesses radiales à cause de la planète qui tourne autour, et ça pour l'instant on n'a pas encore eu de détection, mais on a un satellite qui a été européen qui est déjà lancé, qui s'appelle Gaïa, on a peut-être entendu parler, qui a mesuré la position de plus d'un milliard d'étoiles. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est 1 milliard, donc c'est un 1 suivi de 9 zéros. On a mesuré la position de 1 milliard d'étoiles. Et du coup, en suivant ces positions-là, on s'attend à effectivement détecter des exoplanètes par cette technique dans pas très longtemps.
D'accord.
Et puis là, donc, la dernière méthode, c'est la méthode des lentilles gravitationnelles, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, utilise la relativité générale d'Einstein pour se servir comme d'une lentille, le fait que la lumière est déviée par un corps... Massif,
ouais.
Qui nous permet de voir beaucoup plus loin, et ça, il y a pareil, quelques dizaines d'exoplanètes qui ont été découvertes comme ça.
D'accord. Alors, je vais te questionner. Merci beaucoup, c'est extrêmement intéressant.
On est parti, moi.
Si tu es d'accord, je te questionne un tout petit peu sur Khéops aussi, mais oui. Avant cela, pour en terminer avec cette histoire de taille, est-ce que l'on constate que les planètes énormes sont gazeuses et que les planètes plus petites sont des planètes telluriques avec solides?
Alors, bon, déjà,
solide, c'est pas le
donc,
mot.
Ouais, dans notre système solaire, on a donc ce qu'on appelle les géantes gazeuses, qui sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. On a tendance plutôt à dire pour Uranus et Neptune des géantes gazeuses glacées, d'accord, puisqu'elles sont géantes gazeuses, plein de gaz, mais aussi beaucoup de glace, pas forcément de l'eau, glace de méthane, etc. Donc ça, c'est des planètes où c'est du gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, comme les étoiles, mais qui ont pas de la fusion, d'accord, donc elles ne brillent pas. Ça, c'est les géantes gazeuses. Et dans notre système solaire, elles sont loin et proches du Soleil, il y a les planètes telluriques, donc avec un sol sur lequel on peut se poser. Ce qu'on a appris avec les exoplanètes, c'est déjà que notre système solaire, c'est pas du tout la norme. C'est-à-dire qu'en fait, autour des autres étoiles, les systèmes planétaires ont des formes totalement variées, totalement incroyables, auxquelles on s'attendait pas du tout. Par exemple, la première exoplanète, 51 Peg B, elle s'appelle, c'est une planète de la taille de Jupiter, okay, donc grosse planète, gazeuse, mais qui tourne très 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 proche de son étoile. Et ça, on s'y attendait pas du tout, parce que nous, le seul exemple qu'on avait, c'était les planètes géantes gazeuses sont loin de l'étoile, et les planètes telluriques sont proches.
Ouais.
Et en fait, non, il y a cette population de planètes qui s'appelle les Jupiter chauds, donc Jupiter, parce que la taille de Jupiter est chaud, parce que très proche de leur étoile, et qui tournent en seulement quelques jours, des fois, donc de leur étoile. Il y a une relation entre le temps qu'on met pour tourner autour de l'étoile et la distance par rapport à son étoile. La Terre, par exemple, tourne autour du Soleil en une année, c'est la définition de l'année. Mercure, qui est la planète la plus proche de nous, tourne en 88 jours, 88 jours, je sais jamais, selon le canton, il faut qu'on dise. 88 jours, c'est bien. Étant du canton de Vaud, j'ai plutôt tendance à dire 8 ans de tuyaux.
Mais ça va aussi.
Et donc, tu rentres donc en 88 jours, hein, alors que là, donc, on a découvert des planètes qui tournaient en seulement quelques jours. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, elles sont vraiment très, très, très proches. Et du coup, elles reçoivent beaucoup d'énergie de leur étoile. Et donc, elles sont très, très chaudes.
D'accord.
Donc, ça, c'est donc les Jupiter, voilà, chauds. Et donc, pour revenir à la question du départ, donc, dès qu'une planète est grosse, dans son mécanisme de formation, elle va avoir tendance à accréter du gaz. En fait, il faut imaginer la formation planétaire comme plein de petites roches qui s'agglutinent les unes aux autres. Elles vont former un petit noyau rocheux. Et si ce petit noyau rocheux arrive à une masse critique, qui est de l'ordre de la masse de Mars, elle va commencer à accréter un petit peu de gaz. Donc elle va continuer à grossir. Et puis si elle continue encore à accréter du matériel, elle va atteindre une masse de l'ordre de 10 masses terrestres, hein, donc 10 fois la masse de la Terre. Et là, elle va rentrer dans une phase où elle va accréter beaucoup, beaucoup de gaz et former une géante gazeuse.
D'accord.
Donc en fait, les grosses planètes sont des planètes gazeuses parce qu'elles sont rentrées dans cette phase qu'on appelle, de runaway gas accretion, okay, donc simplement un emballement de l'accrétion de gaz qui va former une géante. Au-dessous de 10 masses donc, de la Terre, on peut aussi donc former ce qu'on appelle une population qu'on a découverte aussi, qu'on n'a pas dans notre système solaire. Ce sont des super-terres, c'est-à-dire des planètes rocheuses sur lesquelles il y a un sol, mais beaucoup, beaucoup plus grosses que la Terre, jusqu'à 4, 10 masses de la Terre, et qui, donc du coup, ont très, très peu de gaz par rapport à leur taille. Elles restent quand même très, très grosses, mais ce n'est pas des géantes, dans le sens comme Jupiter.
Ok. Voilà. Est-ce que cette composition et cette taille sont à même de provoquer l'apparition d'une atmosphère ?
Alors, dès l'instant qu'on accrète du gaz, il y a une atmosphère.
C'est ça.
D'accord. Donc, dès l'instant qu'on a, pour retenir son atmosphère, pour avoir une atmosphère, il faut être suffisamment gros. D'accord. Donc, la Terre, elle n'est pas très très grosse, mais elle est suffisamment grosse pour retenir une atmosphère. Celle qu'on respire, sinon on serait tous morts. Sur Mars, par exemple, Mars est beaucoup plus petite que la Terre. Il y a une atmosphère, mais vraiment toute petite, comparée à la Terre. Pour Mercure, par exemple, il n'y a pas d'atmosphère, ou en tout cas très très ténue. Parce que Mercure est beaucoup plus petite. La Lune, qui est beaucoup plus petite aussi, n'est pas assez grosse pour retenir les atomes de gaz. Donc, pour avoir une atmosphère, il faut être suffisamment gros pour pouvoir retenir le gaz qui a tendance sinon à s'échapper dans l'espace.
Et également pour la forme, est-ce que l'on devient sphérique que dès lors qu'un palier est passé en termes de grandeur ou de force alors, de gravitation finalement.
Ouais, alors effectivement, c'est d'ailleurs une des définitions de qu'est-ce qu'une planète. Pour être une planète, il faut être suffisamment gros pour être sphérique, en fait. Faut être sphérique et il y a un lien justement entre les deux. Si on n'a pas assez de masse, on peut garder une forme un petit peu bizarre. Mais au bout d'un certain moment, j'avoue, je ne connais pas vraiment le critère. Mais au bout d'un certain critère de masse, on va être suffisamment gros pour être sphérique.
Très bien. Allez, revenons-en rapidement à Khéops. Quelques mots à propos de Khéops, puisque lui, c'est un satellite suisse qui va être...
Premier satellite suisse spatial. Oui. Donc, c'est une mission conjointe entre la Suisse et l'ESA, donc le European Space Agency, okay, donc l'Agence Européenne Spatiale, qui va être lancée le 17 décembre. On a la date de lancement, vous allez en entendre parler beaucoup dans les médias, et surtout, on va essayer de faire... Des petites choses autour de ça, donc restez au courant. Donc Khéops, c'est donc
le point de départ, ce sera où?
C'est à Kourou, hein, donc c'est à Kourou. Donc non, malheureusement, on l'envoie pas depuis Genève, depuis la plaine de plein palais. Attention, il va y avoir de la fumée.
Ce sera sur une Ariane.
C'est lancé sur une fusée Ariane, effectivement, depuis le site Kourou. Donc le 17 décembre, on n'est pas le passager principal. Il y a donc un autre télescope qui est envoyé, pas un autre télescope, un autre instrument en tout cas militaire, il me semble, qui est envoyé avec la fusée. Puis nous, on squatte un petit peu la fusée. Ça coûte très très cher d'envoyer quelque chose dans l'espace, donc du coup on squatte un petit peu la fusée à moindre coût. Et donc envoyé le 17 décembre. Et donc Khéops, comme je l'ai dit, le premier satellite spatial suisse, il va justement avoir pour objectif de regarder les planètes avec cette fameuse méthode des transits. Donc lorsque les planètes passent entre nous et l'étoile qu'on observe. Et Khéops va surtout essayer de caractériser l'atmosphère de ces planètes. Car pendant pendant le transit de la planète, il y a quelque chose de assez fantastique pour nous, parce que ça nous permet d'avoir de l'information qui arrive. C'est que la lumière de l'étoile passe à travers l'atmosphère de ces exoplanètes Et il y a de l'information qui est encodée dans cette lumière. Donc nous, quand on voit cette lumière, on arrive à dire des choses sur l'atmosphère de cette planète. Quelle est sa température? Quels sont les constituants? Est-ce qu'il y a des nuages, par exemple? Et ça, donc avec Kéops, c'est justement ce qu'on va chercher à comprendre. Caractériser l'atmosphère de ces exoplanètes.
Et également les températures, du coup.
Voilà, exactement. Et puis les températures, en fait. Donc,
voilà.
On arrive à avoir beaucoup, beaucoup d'informations grâce à cette technique.
Ouais. Alors, qui l'a fabriqué? Quelles sont les diverses entités à la louche, hein, si tu en as une idée vague.
C'est une question piège. Hein,
c'est vrai? Ah, je voulais pas.
Non, il n'y a pas de problème. Alors, donc c'est comme je l'ai dit, c'est une mission à la fois européenne et suisse. Donc, ça a été mené par Berne et Genève, principalement. J'avoue que moi, je ne suis pas énormément impliqué dans Kéops. Donc, du coup, je n'ai pas suivi tout ce qu'on a fait. Mais en tout cas, il y a des choses qui ont été construites en Suisse, des choses qui ont été construites dans d'autres pays européens. Ensuite, on a assemblé tout ça. Il y a le contrôle, donc la salle de contrôle qui est donc à l'Observatoire de Genève. On a fait des tests dans les salles vides à l'université de Berne. Voilà, la Suisse, en fait, c'est la première fois que la Suisse mène le projet. C'est-à-dire que c'est vraiment le pays qui mène le projet. Après, bien entendu, c'est des projets spatiaux, donc il y a plein d'autres pays qui sont, surtout avec l'ESA, il y a plein d'autres pays qui sont impliqués, et donc il y a différentes parties du télescope qui ont été construites en différents pays, parce que c'est une des obligations, entre guillemets, une des façons de fonctionner de l'Agence spatiale européenne, c'est que les pays membres doivent être impliqués dans ce type de projet et donc doivent fournir des pièces.
Ouais. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de comprendre qu'effectivement, l'astronomie est une science qui implique très largement les personnes autour d'elle. Et par ailleurs, également des personnes non professionnelles, d'une certaine manière. On peut dire pour les celles et ceux qui observent un peu le ciel, il y a une sorte d'implication comme ça, par principe, des personnes qui sont amenées à s'y intéresser.
Oui, alors...
C'est assez singulier.
Tu veux dire par rapport aux astronomes amateurs, par exemple, par rapport aux gens qui regardent les étoiles?
Exactement, exactement.
Alors, c'est vrai que l'astrophysique, l'astronomie, c'est quelque chose qui fait rêver, je pense.
Ouais.
Je pense qu'on peut le dire.
Ouais, clairement.
Moi, ça me fait rêver, en tout cas, depuis que je suis tout petit. Et je pense que ça fait rêver beaucoup de gens. Donc,
absolument.
Voilà.
Sur quelle orbite sera se situera, pardon, Kéops?
Question piège. Attention. Alors, Kéops va, il me semble, à l'altitude, ça sera de l'ordre de 800 km
okay.
de nos têtes. Donc, c'est haut, mais pas très très haut. Par exemple, la station orbitale internationale, elle est à 400 km okay, au-dessus de nos têtes, ce qui est finalement pas si loin que ça. Hein. Mm. Donc 800 km et puis donc le télescope Kéops va essayer de suivre la nuit, la limite entre le jour et la nuit de la Terre.
D'accord.
Et donc va tourner comme ça en suivant un petit peu cette limite jour-nuit, okay, de façon à toujours montrer ses fesses au Soleil, puisque ses panneaux solaires sont sur ses fesses pour du coup avoir de l'énergie pour l'instrument et pour pouvoir pointer donc de l'autre côté là où il fait nuit, parce que si on pointe côté Soleil, on voit pas grand chose.
Absolument.
Donc voilà.
Et alors, donc tu l'as dit, 800 km, on est au-delà de l'atmosphère terrestre. Ce qui veut dire que, enfin quasiment,
alors, ouais,
parce qu'on sait que la station internationale, on doit de temps en temps la pousser un petit peu.
Exactement, alors l'atmosphère, alors, c'est bien sûr, c'est difficile de dire à quel moment l'atmosphère se termine. Jusqu'à 500 km, on peut dire qu'il y a encore de l'atmosphère, hein, encore du gaz. Ensuite, on parle plutôt d'exosphère, c'est-à-dire qu'un moment où c'est tellement ténu, la densité est tellement ténue que finalement... on peut plus parler de gaz. Et donc effectivement, pour tout ce qui est satellite en basse altitude, il y a des frottements qui se passent justement à cause de cette atmosphère, haute atmosphère, qui vont du coup ralentir l'objet spatial qui tourne, donc par exemple le télescope ou la station internationale, et qui du coup va la faire tomber sur la Terre. Et donc du coup, de temps en temps, il faut allumer les moteurs pour pouvoir remonter un tout petit peu, si j'ai envie de dire.
Et Kéops, ce sera pareil?
Alors,
Kéops, non, à 800 km, on est
alors,
tranquille.
À 800 km, on est a priori plus tranquille, mais Kéops aura des moteurs et de toute façon, il faut ajuster les trajectoires.
D'accord. Et l'intérêt, j'imagine, de quitter l'atmosphère, c'est également d'être dans un vide, un noir qui permet effectivement de détecter les rayonnements d'une plus grande qualité.
Donc, un des grands problèmes effectivement de l'atmosphère, c'est que l'atmosphère va atténuer la lumière qu'on voit des étoiles. Et non seulement on va l'atténuer, mais en plus, un truc qui est pas très très bien pour nous, les exoplanètes, en tout cas en recherche en exoplanètes, c'est qu'il y a aussi donc plein d'eau, par exemple, plein d'autres molécules dans l'atmosphère de la Terre, et du coup, la lumière qui vient des étoiles va aussi encoder cette information. Et donc, lorsque nous, on les observe depuis le sol, il faut réussir à dire, ok, ça, c'est une signature spectrale due à l'atmosphère de la Terre. Et hop, il faut la virer, parce que sinon, on pourrait dire, par exemple, ah, on a trouvé de l'eau ou de l'oxygène sur une planète, en fait, que non. L'oxygène venait de la Terre. C'est pas trop arrivé, ça, encore, ça va.
Heureusement. La durée de vie, et puis ensuite, on parle de la BD. La durée de vie de Kéops.
Bonne question. 3 ou 5 ans, je suppose.
D'accord, donc c'est dans cet ordre de grandeur, voilà, a priori.
On a le responsable scientifique juste à côté de nous, dans la tente là-bas, on pourrait aller le choper. Pour lui
on reviendra la nuit pour une observation. Mais a priori, c'est dans cet ordre de grandeur.
C'est ça, d'accord. On sait pour les missions spatiales, voilà, c'est quelques années. Mm-hmm. Et en principe, si tout se passe bien, on essaye d'étendre ce temps d'observation. Ouais. C'est-à-dire que si on voit que le satellite il marche encore, eh ben on continue. Hein. Bah, après, bien sûr, il faut mettre de l'argent sur la table puisqu'il faut continuer à payer le salaire des gens qui s'occupent de maintenir le satellite, qui s'occupent de regarder les données, etc. Donc, mais si, en principe, si le satellite est toujours en bon fonctionnement, on le garde.
D'accord. Ça veut dire que, par exemple, un truc comme Voyager, qui est dans le ciel depuis des décennies,
depuis très longtemps,
il y a des équipes qui se sont succédées avec des personnes
exactement.
Qui sont parties à la retraite.
Il y a même des personnes qui sont certainement mortes pour Voyager.
Mais oui.
Et, voilà, et le relais est encore pris, on s'en sert encore. Alors, bien sûr, Voyager, on ne peut plus faire grand-chose avec. Maintenant, là, je pense que les batteries doivent plus rester beaucoup d'énergie. Mais on s'en sert justement pour sonder le milieu interstellaire. En tout cas, pour l'instant, il me semble que Voyager a dépassé l'endroit où l'influence du soleil se fait autour dans l'espace, et donc il est en train de passer dans le milieu interstellaire entre les planètes.
C'est incroyable. Ouais. Alors la BD. Salomé, enquête d'exoplanètes. Qu'est-ce que ça signifie? On est à la recherche, on fouille, on débusque.
Voilà, exactement. Donc là on a essayé d'écrire donc cette bande dessinée comme une enquête. Un petit peu la façon dont fonctionne la recherche, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, la première chose à faire, c'est se poser des questions, okay, s'intéresser un petit peu à tout, puis ensuite essayer d'y répondre, et on se rend compte que quand on essaie d'y répondre, bah, ça ouvre d'autres questions. D'où le mot enquête. Et puis on a fait enquête un petit peu en jeu de mots, comme une quête spirituelle peut-être un petit peu. Et du coup, ce premier tome, on essaie surtout de s'intéresser à comment détecter ces exoplanètes. C'est surtout ça l'objectif. Et le but de cette bande dessinée, déjà, c'est une histoire, quand même. C'est une histoire. Nous, ce qu'on voulait, c'était pas faire un documentaire. Ce qu'on voulait, c'était faire rêver un petit peu les gens, les enfants. Notre cible, c'est, peut-être que je le dis, c'est les enfants entre 10 et 12 ans. Même si on s'est pas privé d'être assez audacieux dans le contenu scientifique. Donc, du coup, je pense que ça peut intéresser une population beaucoup plus large. Moi, j'ai deux filles qui sont beaucoup plus jeunes, 5 et 7 ans. En leur lisant la BD, elles ont peut-être pas tout compris le contenu scientifique, mais en tout cas, elles ont beaucoup aimé l'histoire, hein, les dessins. Et mine de rien, on pose une petite graine sur.
Il y a plusieurs portes d'entrée.
Il y a plusieurs portes d'entrée. Ça. Et on a même des adultes qui ont lu la BD, nos lecteurs tests, qu'on remercie d'ailleurs, qui ont du coup aimé finalement ce contenu scientifique un petit peu audacieux.
Le format de la BD, ça s'est un peu imposé parce que vous avez justement envie de vulgariser d'une certaine manière en étant pédagogique et ludique.
Alors la façon dont ça m'est arrivé, j'avoue, je ne me rappelle plus très très bien. Mais le projet, on l'a commencé il y a déjà très longtemps. Hein. C'était il y a 3-4 ans que ce projet est arrivé. Donc moi, j'avais mes enfants. J'ai essayé de chercher des livres qui puissent les intéresser en science de manière générale. Et c'est vrai que souvent, je trouvais que les livres, c'était soit des documentaires, et je trouvais que ça manquait un petit peu de poésie, un petit peu de côté artistique, soit des histoires un peu trop farfelues, ou même des fois, il y avait même des erreurs scientifiques dans les histoires, ce qui est beaucoup plus grave.
C'est un peu problématique,
ça peut arriver. Et donc, du coup, je me suis dit, mais ça, c'est un format qui pourrait être pas mal pour les enfants. C'est vrai que moi, j'aime bien tenir un livre entre les mains, une bande dessinée entre les mains, ça, je sais pas pourquoi, ça me paraît toujours un petit peu magique d'ouvrir un livre. Et donc du coup, voilà, on s'est dit la bande dessinée, c'était un bon compromis avec des jolis dessins pour passer de l'information et pour rester ludique. Un petit côté artistique, je trouve, dans les dessins, que moi j'aime beaucoup aussi. Il y a des planches dans la bande dessinée. Donc la bande dessinée fait à peu près 70 pages maintenant. Il y a des planches que j'aime juste regarder parce que je les trouve juste belles, en fait.
Voilà. Donc il y a des dessins, également des photos et du texte.
Exactement. Donc on a aussi... L'avantage, c'est qu'on en a un petit peu sorti, comme on n'a pas de maison d'édition... professionnel entre guillemets, on a créé notre propre maison d'édition associative, justement pour les choix éditoriaux, pour pas avoir de bâton entre les roues. Et donc du coup, on s'est permis quelques écarts par rapport à ce qui pouvait se faire dans le monde de la bande dessinée réelle. Et en l'occurrence, on a par exemple mélangé des vraies photos des fois dans les dessins, parce qu'on trouvait ça juste beau. Des fois, la nature est simplement belle et juste une photo plus qu'un dessin, ça peut être bien. Et le mélange des deux, moi je trouve vraiment vraiment bien. Il y a des gens qui aiment pas trop, hein. Il y a des gens qui aiment bien les règles, hein. Une bande dessinée, c'est des dessins, on met pas de photos. Après, on a mis par exemple des équations mathématiques des fois, et ça peut faire peur, mais moi je trouve ça beau des fois, les équations mathématiques sur un tableau noir. Et puis on s'habitue, en fait. Ça fait peur au début, puis après on se fait bon, finalement c'est pas si compliqué. Donc voilà.
L'apparition, c'est le 25 novembre 2019.
Ouais, donc dans pas très très longtemps.
Voilà, et qui coïncide avec la fenêtre de lancement de Kéops.
Alors du coup, nous quand on a commencé à fixer cette date du 25 novembre, la fenêtre de lancement de Kéops, c'était fin novembre, début décembre. Et puis on a eu la date pas longtemps après, en fait, qui était le 17 décembre. Bon, on en sortira un peu avant, mais c'est pas plus mal, comme ça les gens vont pouvoir commencer à lire la bande dessinée.
Ouais.
Et lorsque Kéops va être lancé, on va dire, ah, on l'a vu Kéops dans la bande dessinée.
Voilà, et puis on l'a pas dit, mais effectivement ici, on a pu observer Kéops ainsi que le VLT en grandeur nature.
Exactement, donc là, sur la plaine de Plein Palais, il y a effectivement une maquette de Kéops à taille réelle, ce qui est assez impressionnant, en fait, ça fait assez gros.
Comment vous avez... Alors, qui en sont les auteurs de cette BD? Y a-t-il un comité de rédaction? Est-ce que vous avez... Parce qu'il a fallu filtrer les infos, certainement, il a fallu les rendre tout de même accessibles. Ouais. Comment ça s'est produit?
Alors, c'est vrai que moi, tout à fait au début, j'avais des attentes très très grandes. Je voulais parler de tout, faire une bande dessinée de 300 pages où on allait de manière exhaustive expliquer la recherche sur les exoplanètes.
Mm-hmm.
Mais donc, ma femme, qui est co-scénariste...
Elle m'a
beaucoup modéré. Elle travaille pas en recherche et donc du coup elle m'a beaucoup modéré par rapport à ça. Pour les dessins, on a donc fait appel à un dessinateur parce que malheureusement, moi, je suis très mauvais en dessin. Raph, donc du coup le nom du dessinateur, un dessinateur marseillais qui fait des dessins que moi je trouve vraiment très très bien. Et ensuite pour la couleur, on a trouvé Rebecca Troning qui du coup est encore étudiante à l'école de bande dessinée ici à Genève. Et je trouve que la combinaison des deux, entre les dessins de Raph et les couleurs de Rebecca, sont juste, voilà, juste incroyables. Et donc ça, on va dire que c'est nous quatre, c'est nous qui avons, voilà, construit donc cette bande dessinée. Et le scénario donc, qui était fait bien en amont avant que Raph et Rebecca arrivent. Donc là, voilà, c'était surtout les deux co-scénaristes, donc ma femme et moi-même. Et on a effectivement... baisser mes attentes, donc maintenant on est 70 pages, on s'est concentré uniquement sur la détection des exoplanètes, et vraiment ce qu'on voulait faire, c'était, on parle pas de tout parce qu'on peut pas parler de tout, mais par contre ce qu'on essaie de le faire à fond, et on essaie de voilà, de l'expliquer de façon à ce que les gens comprennent effectivement ce qu'on explique.
Et puis ouais. 70 pages, ça reste tout de même quelque chose de...
C'est effectivement assez gros. Oui.
Voilà,
donc là, c'était un des avantages d'avoir cette maison d'édition associative qui s'appelle l'Agora d'Hypatie, que j'aurais donné le nom.
Ah bah j'allais y venir. Tu as cet entouré en vert là.
Ah oui, effectivement.
L'association Agora d'Hypatie. Alors peut-être Agora quelques mots, parce que Hypatie, c'est un personnage tout de même.
Ouais.
Voilà.
Alors, déjà une agora, donc c'est peut-être parler de ça. Donc c'était un endroit où, donc sous l'Antiquité grecque, où on va dire le centre des villes, où toute la, on va dire l'émulation des villes se faisait, d'accord, où les gens se rencontraient. Et puis donc Hypatie, c'était donc une mathématicienne, astrophysicienne, donc dans l'Antiquité, vers 300, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est 300 après Jésus-Christ, qui malheureusement a mal fini, hein, était lapidée à mort.
Ouais.
Mais donc c'est une femme, hein, et quelque chose que, ayant deux filles qui sont très importants pour moi, c'est justement essayer de montrer aux petites filles que tout est possible, notamment que la recherche leur est accessible, car malheureusement de nos jours il y a quand même des biais, okay, il y a plus d'hommes que de femmes en recherche, et je pense que c'est quelque chose qui se construit très très tôt dans la jeunesse. On a tendance à dire, pour les petites filles, ça sera littérature, et pour les petits garçons, ça sera science. Voilà.
Science dure, une femme.
Science dure, voilà. Mmh. Et donc, on trouvait que l'Agora d'Hypatie, ça envoyait un message qui disait qu'il y a eu des femmes en recherche dans le passé, et j'espère que dans le futur, on aura des proportions plus. On a une moto qui passe.
Mmh.
Plus égalitaire, voilà, homme-femme.
Et Agora. Une reconnaissance du travail.
Effectivement. Et Agora, parce que. J'ai toujours aimé l'Antiquité, et je trouve un endroit de vie où les gens pouvaient parler, etc. Alors, c'est vrai que sous l'Antiquité grecque, c'était quand même plutôt des hommes.
Oui, mais on peut imaginer par extrapolation, on pense à un lieu d'échange égalitaire, horizontal, dialectique, tout ça.
Exactement.
Tout ça. Deux petites questions encore, et puis ensuite, je te laisse tranquille, parce que c'est vrai qu'on prend un peu de temps.
J'ai tout le temps.
Très bien.
Alors,
génial.
Après, c'est juste les auditeurs qui vont arrêter de nous écouter.
Enfin, je voulais encore qu'on en vienne là. Alors, que tu nous donnes à la fin de l'entretien les sites, les contacts, les moyens de vous contacter, en tout cas de se tenir informé par rapport à ça, et également concernant le crowdfunding qui a cours en ce moment.
Oui. Alors donc jusqu'à fin septembre, il reste peu de jours, hein, finalement, avant la fin de la campagne. Donc si vous voulez précommander la bande dessinée, c'est maintenant qu'il faut le faire, d'accord? Jusqu'à fin septembre, vous avez encore une dizaine de jours. Il faut donc aller sur le site qui s'appelle Héros Locaux, qui est un site de campagne, donc de financement participatif, qui a l'avantage d'être gratuit pour nous, c'est-à-dire que chaque centime que vous mettez vient effectivement dans le projet, ouais. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des sites de crowdfunding. Et donc, si vous allez sur le site, le nom de code, j'essaie de ne pas vous dire de bêtises, c'est donc BD Salomé. Okay, donc, si vous allez sur le site, vous devez nous trouver relativement facilement. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, il y a toutes les informations, dont le lien vers la campagne de crowdfunding. Si vous allez sur Facebook, donc c'est BD Salomé, donc BD puis Salomé. Vous pouvez trouver notre page assez facilement là-dessus. On a aussi une page sur le site de l'Université de Genève. Donc là, si vous êtes unige.ch/BD Salomé, voilà, vous pouvez nous trouver aussi. Il y a aussi pas mal d'informations. Parce qu'en fait, on n'en a peut-être pas trop parlé, mais le projet, c'est beaucoup plus qu'une simple bande dessinée. On a aussi tout un projet pédagogique autour de cette bande dessinée qui va nous servir de support pour aller dans les classes de 7P, Armos, en Suisse romande, donc 11 ans, de façon à parler aux enfants d'exoplanètes. Avec ce support ludique, les enfants pourront retrouver les personnages, les héros dans ces ateliers pédagogiques qui seront dispensés à la partir de l'année prochaine. On va commencer à s'attaquer au canton de Genève et petit à petit disséminer vers tous les autres cantons de Suisse romande avant de s'attaquer à la Suisse alémanique.
Ce qui est déjà en projet.
Donc la bande dessinée sera déjà en allemand. Donc là, la sortie pour le 25 novembre, ça sera en français. Dès 2020, on s'attaque à la version allemande et puis version anglaise aussi pour conquérir le monde.
Mais oui. Et on lit dans un des communiqués que j'ai pu lire, notre objectif est de proposer aux écoles suisses 21 000 exemplaires de la bande dessinée, le tome 1, qui seront prêtés d'année en année aux élèves de 7e Armos, 11 ans. Nous ciblerons ainsi 105 000 enfants sur 5 ans. Ça, c'est l'objectif.
Voilà, ça, c'est notre objectif. Alors, on aime bien se mettre des objectifs audacieux. Hein. Pour viser les étoiles, de toute façon, il faut se mettre des objectifs très, très hauts. Donc, effectivement, ce qu'on souhaite, c'est toucher 100 000 enfants sur 5 ans. Et pourquoi pas plus, hein. Il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas une date de péremption sur la bande dessinée, sur les ateliers. Donc, pourquoi pas sur le long terme. Mais voilà, on s'est mis des objectifs sur 5 ans audacieux parce que on pense que si on veut avoir un impact, il faut de toute façon se donner des objectifs audacieux. Alors peut-être que, donc là, les enfants auront donc 11 ans. Peut-être dans 10 ans, lorsqu'ils seront à l'Uni, ils vont commencer à faire de la recherche. En tout cas, se poser des questions sur qu'est-ce qu'ils veulent faire. Peut-être qu'on va voir un taux de...
C'est ça. Il va falloir agrandir une fac.
Voilà, d'étudiants en master d'astrophysique qui va devenir énorme. Et on a peut-être pas la capacité d'absorber tout ça, tout ce monde.
Qu'est-ce qu'on fera de tous ces gens-là?
Alors, l'avantage, c'est que l'astrophysique, on acquiert une expertise et on peut faire plein de choses.
Ouais. Voilà. Est-ce que nous voudrions citer tout de même le comité pédagogique?
Oui, alors donc le comité pédagogique, donc du coup on travaille donc avec Sylvia Ekström et Laurent Dubois du département donc de sciences de didactique des sciences de l'Université de Genève qui du coup vont nous aider à faire ces ateliers pédagogiques. Donc là on les a pas encore vraiment entièrement finalisés et on aimerait aussi faire ces ateliers avec les enseignants. Donc là on est à la recherche d'enseignants. Donc si vous êtes enseignant et que vous trouvez le projet pas trop mal, que vous trouvez ma voix finalement pas si mal, ce gars il a l'air plutôt intéressant, n'hésitez pas à nous contacter, il y a toutes les informations là sur les sites que j'ai donné tout à l'heure, si vous allez sur BD Salomé sur Facebook ou sur le site de l'UNIGE, vous pouvez nous trouver facilement. Donc on fait un appel à enseignants justement pour trouver des enseignants qui sont motivés pour nous aider à faire ces ateliers pédagogiques, en tout cas les préparer, parce que je pense vraiment les enseignants ce sont les personnes qui sont en contact avec les enfants. Alors moi j'ai deux filles, donc je suis en contact avec les enfants, mais je suis pas tous les jours dans une classe. Et du coup, j'aimerais vraiment voilà, que des enseignants s'impliquent dans la création de ces ateliers, de façon à ce qu'on loupe pas notre cible finalement. Moi ce que je veux, c'est que les enfants soient heureux, et les enseignants heureux aussi d'ailleurs.
L'appel est lancé en tout cas.
L'appel est lancé. Ouais.
Merci beaucoup Baptiste pour toutes ces informations qui sont extrêmement alléchantes. Hein, ça donne vraiment vraiment envie. On va peut-être terminer en rappelant l'adresse mail, hein, lagoraipati@gmail.com.
Voilà.
Que toutes les personnes qui souhaitent vous solliciter.
Voilà. Vous pouvez nous contacter sur Facebook, c'est peut-être aussi plus facile. Donc BD Salomé, @BD Salomé, voilà, sur Facebook. Vous tapez ça dans Facebook et vous nous trouvez. Et vous pouvez nous envoyer un message ou sur l'adresse mail que tu viens de mentionner.
Très bien. Et alors, la dernière petite question, une question ouverte. Hein, selon toi, l'observatoire de Genève, quelles aspirations, quel lendemain? Est-ce qu'on peut imaginer un laboratoire qui continue de se développer? Comment ça va se passer?
Alors, l'observatoire, déjà, c'est quand même beaucoup, beaucoup développé. Hein. Donc, les locaux sont situés vers Sauvergne, dans la forêt de Sauvergne. Et le premier bâtiment a été construit dans les années 60. Et en 2016, on a déjà agrandi avec un bâtiment qu'on appelle l'Astrotech, qui est tout orange, tout beau. Je vous invite à venir le visiter quand vous pouvez. Il y a des visites qui sont organisées.
Ouais.
Et donc, on a déjà énormément grossi. Après, bien sûr, nous, on fait donc de la recherche fondamentale. les retombées directement dans la société ne sont pas directes. Et donc, du coup, on va continuer à grossir, mais on n'a pas pour but de devenir une industrie avec des milliers et des milliers de personnes. Mais il y a déjà 150 personnes qui travaillent à l'Observatoire de Genève. Et moi, j'espère qu'on va continuer à grossir, parce que la recherche en astrophysique, on en a besoin. C'est quelque chose qui nous permet justement d'agrandir nos connaissances. Ça a des retombées directes aussi, plutôt sur le long terme. Mais donc, voilà. Ouais. J'espère que l'Observatoire va continuer à grossir.
Très bien. Et comme tu l'as dit, on peut le visiter, on peut regarder le site internet et se renseigner assez facilement.
Exactement. Voilà. Vous allez vous connecter sur le site. On organise des visites toutes les semaines. Alors, c'est sûr que voilà, il y a beaucoup de monde qui veut le visiter. On a pas mal de classes qui viennent visiter. Et donc, du coup, on a une limitation simplement par le nombre de personnes qui travaillent et qui sont capables de faire ces visites. Mais voilà, n'hésitez pas à venir. Après, si vraiment vous voulez par exemple faire une soirée d'observation, dans le cadre de la campagne de crowdfunding, les parrains qui sont intéressés, donner bien sûr un petit peu plus d'argent pour cette campagne, on leur organise une soirée d'observation dédiée pour eux. En sachant qu'il y a aussi des observations qui sont faites à l'observatoire gratuitement. Il y en a une dizaine par an. Il faut s'inscrire aussi sur le site, vous avez toutes les informations. Mais là, du coup, ça dépend de la météo, etc. Alors que là, nous, on assure l'observation. Quoi qu'il arrive, vous aurez le droit à une soirée d'observation.
Génial. Dernière question avant laisse. Y a-t-il un réseau avec lequel l'observatoire fonctionne? Les différentes sociétés astronomiques à Genève ou ailleurs? Est-ce que les contacts sont assez rapprochés? Est-ce que beaucoup de personnes s'y impliquent? Peut-être de manière salariée ou pas salariée?
Alors, du coup, il y a toutes les sociétés d'astronomie amateurs en Suisse. Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Je ne me rappelle plus le chiffre, mais c'est plusieurs centaines, je crois. Exactement. Le chiffre exact, je ne me rappelle plus. Et au sein de l'observatoire, il y a bien sûr des astronomes amateurs aussi. Ah, par exemple, moi, je ne suis pas trop astronome amateur, malheureusement. Je suis très mauvais, par exemple, pour reconnaître les étoiles dans le ciel. Autant comprendre les mécanismes qui expliquent ce qu'on voit. Ça, je comprends et puis je m'y intéresse beaucoup. Autant astronome amateur, j'ai du mal. Et souvent, d'ailleurs, c'est assez paradoxal, mais je suis assez intimidé par les astronomes amateurs. Quand ils me posent des questions, je dis « Ah, cette étoile, comment elle s'appelle ?» Très, très bien. Non, c'est un avion. Ah. Ouf, je suis sauvé.
Ou c'est l'ISS.
Effectivement, on peut voir l'ISS qui passe. Mais donc, il y a forcément des liens entre les astronomes amateurs et puis donc, les astronomes professionnels, ça c'est sûr. Et
donc, il y a un réseau.
Il y a un réseau, effectivement. Qui est mis en place.
Dernier petit conseil, y a-t-il des outils que l'on peut à la maison sur son propre ordi ou des petites applis comme ça qui nous permettent de nous intéresser un peu à la voûte céleste? Je pense à Stellarium,
voilà,
quelque chose comme ça.
Voilà, Stellarium, exactement.
C'est
le plus cool. Ah, bien sûr, Stellarium. Bah, nous, on l'utilise aussi.
Ah ouais, super. J'utilise comme vous.
On a aussi Celestia qu'on utilise. Oui. Mais on vit une époque assez incroyable où justement, quiconque a envie de se former à quelque chose de nouveau peut le faire. On va aussi mettre en place des MOOC l'Université de Genève, là, justement sur l'astrophysique, l'astronomie. Donc, n'importe qui pourra à terme devenir astrophysicien. C'est pas compliqué d'être astrophysicien, il faut juste être passionné. Ça prend du temps, mais je pense que tout le monde peut le faire.
Baptiste, merci, c'est le mot de la fin. Je pense que c'est très très bien. Et bonne continuation pour la suite des opérations. Et à bientôt.
À bientôt.
Ciao. Au revoir.